bouche à oreille. Les saveurs ont une voix, les terroirs ont une histoire. Bertrand Balesta sur RVB.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RVB, la radio à partager. Vous écoutez Bouche à oreille, l'émission où la gastronomie, les vins, les terroirs et celles et ceux qui les font vivre prennent la parole. Dans cette toute première émission, nous allons parler d'un produit emblématique de notre région, de notre cher Périgord, le foie gras. Un produit de fête, bien sûr, mais pas seulement, mais aussi une filière, des producteurs, des savoir-faire, une histoire, des choix de consommation. Alors, pour ouvrir cette émission de bouche à oreille, il nous fallait une voix qui nous amène derrière le produit, là où il y a des femmes, des hommes, des gestes, des traditions, mais aussi des questions très concrètes que chacun peut se poser au moment d'acheter, de cuisiner ou de servir un bon foie gras. Cette voix, c'est celle d'Alexandre Léon, l'animateur de la filière du foie gras du Périgord, un homme pour qui le produit n'a plus aucun secret. Bonjour Alexandre.
Bonjour Bertrand.
Et bienvenue dans cette
Merci.
Première émission de Bouche à Oreille. Alors, vous êtes le premier invité à venir dans les studios de RVB. J'espère qu'Alexandre, vous allez nous porter bonheur.
Très touché.
Bon, écoutez, alors on va parler foie gras. Alexandre, moi la première, on va rentrer dans le sujet. Quand on dit foie gras du Périgord, de quoi parle-t-on exactement? D'un produit, d'une tradition, d'une filière, d'un territoire ou peut-être tout ça à la fois?
On parle d'un trésor, en fait, d'une véritable richesse qui s'installe dans le temps. Qui est le fruit du travail des femmes dans l'histoire. Puisque si on se rappelle un peu qu'on revient deux ou trois siècles en arrière, ce sont les femmes qui s'occupent de la basse-cour dans les fermes et donc qui patiemment apprivoisent, sélectionnent les canards et les oies qui chaque année, en tant que bon oiseau migrateur, en fait, passent dans un sens et dans l'autre au-dessus, dans le ciel, au-dessus du Périgord. Et donc, petit à petit, patiemment, elle sélectionne les meilleurs spécimens et pour nous amener petit à petit dans l'histoire moderne, en fait, hein, avec ces beaux canards et ces belles oies que l'on peut voir dans nos campagnes. Voilà, donc c'est avant tout une histoire, une tradition ininterrompue depuis très longtemps.
Donc, vous voulez dire à Alexandre que c'est la femme qui est à l'origine de ce foie gras du Périgord, quelque part?
Oui, j'insiste, parce que c'est vrai que c'est un travail de l'ombre, quelque part, qui s'est installé dans un temps long. Mais il faut le rappeler, c'est dans l'histoire moderne que tout d'un coup, finalement, là où ça a commencé peut-être à dégager un petit peu de revenus, que les hommes s'y sont intéressés.
D'accord. Alors, on imagine souvent, Alexandre, le foie gras unique au moment des fêtes. Mais derrière, c'est une activité qui vit toute l'année. Aujourd'hui, combien de métiers cela représente-t-il? Combien d'exploitations qu'on puisse donner à nos auditrices et auditeurs quelques chiffres sans rentrer trop dans le détail quand même?
Ouais. Donc Bertrand, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que comme on le consomme principalement pendant les fêtes de fin d'année, on a l'impression qu'on ne produit qu'à la fin de l'année. Finalement. Alors qu'en fait, on produit du canard et de l'oie toute l'année, en Périgord, mais même dans les autres régions productrices de foie gras. Tous les métiers, en fait, sont à contribution toute l'année, à la fois ceux qui sélectionnent les animaux, donc les sélectionneurs, qui font pondre les œufs avec les troupeaux reproducteurs, que ce soit les éleveurs, les engraisseurs, et ensuite tous les métiers qui transforment les produits.
D'accord. Et une dernière question, c'était, on dit souvent que le Périgord, la production de foie gras au Périgord, c'est la troisième région productrice. Quelles sont les autres régions qui gravitent autour de la production de foie gras du Périgord?
Ouais, alors souvent, je dis que le Périgord, c'est le petit des grands. Donc c'est une région qui a une production significative d'oies et de canards gras. Mais effectivement, ça n'est pas la première. Donc la première, c'est, on va dire, la région qui est à cheval entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Ensuite, on a le Gers. Et effectivement, le Périgord arrive ensuite en troisième position.
Parfait. Alexandre, la filière foie gras a traversé des années difficiles, notamment avec la grippe aviaire. Hein. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la filière se relève et comment est la filière aujourd'hui, Alexandre?
Donc, qu'on soit clair, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a connu une décennie de grippe aviaire. Donc ça commence à parler, hein. 10 ans c'est long. Donc ça a extrêmement fragilisé la filière, donc tous ces maillons. Donc on va dire que, comme dans l'économie en général, en France, on a quand même un certain nombre de difficultés et donc de défis à relever. Donc effectivement, notre filière ne fait pas exception. Et en plus, on va dire qu'elle a la problématique de sanitaire en plus, avec la grippe aviaire, à gérer. Depuis 2 ans, on vaccine. Les canards, et donc c'est une obligation d'ailleurs, et donc effectivement ça nous a permis de sortir la tête de l'eau et de trouver une parade, même si elle n'est pas parfaite, mais de toute façon ça n'est jamais parfait en termes de santé, hein. C'est une façon de freiner la diffusion du virus, mais pour l'instant ça donne plutôt satisfaction, même si encore de manière sporadique on a des foyers qui apparaissent, mais ils sont souvent jugulés assez rapidement, voilà.
Donc on peut dire qu'on a retrouvé, la filière a retrouvé un certain équilibre.
Alors elle a retrouvé un équilibre, comme dans tous les secteurs économiques, je pense aujourd'hui, on est en tension quand même, hein, puisqu'effectivement après on connaît toutes les problématiques qu'ont les autres en termes de coûts de production qui sont très élevés, le coût de l'énergie, etc. Mais effectivement, on commence à sortir et à retrouver un peu de perspective.
Et alors, une dernière question sur cette partie-là. Est-ce que les consommateurs s'en sont rendus compte dans les rayons, sur les marchés et dans les prix? Est-ce que ça a eu une influence sur la consommation, en fait, hein?
Donc là, c'est relativement simple aussi. Hein, c'est-à-dire que dès lors que le produit manque, puisque pendant la période de grippe aviaire, quand il y avait des vagues très importantes avec un virus très agressif, on était obligé d'abattre avec les foyers un certain nombre d'animaux, un grand nombre d'animaux. Et donc forcément, comme il y avait moins de marchandises, moins de produits disponibles, forcément les prix augmentaient. Donc effectivement, les consommateurs s'en sont aperçus. Il y a eu quelques fins d'année, quelques hivers où les prix étaient quand même élevés.
Alors, moi j'aimerais parler sur l'identité périgourdine, Alexandre. Est-ce que le foie gras, on a parlé des autres bassins de production, le foie gras, ce fameux foie gras du Périgord, a une identité particulière par rapport, si on devait donner à nos auditrices, à nos auditeurs, quelle est l'identité qui met le foie gras du Périgord vraiment au-dessus?
Alors, il y a plusieurs éléments. Celui que j'aime bien rappeler quand je suis en animation avec le public, qui, moi, m'est cher, c'est qu'en fait, c'est une tradition au sein de familles, en fait. Ininterrompu. Et pourquoi je parle de famille? Parce que la plupart du temps, le nom, la marque qui est indiquée sur le produit, c'est le nom de la famille. Et je dis que c'est un atout très fort. Pourquoi? Alors déjà, c'est la transmission d'un savoir-faire qui est unique. Et en plus, ça engage l'honneur de la famille. Et je rappelle souvent que dans l'époque que l'on vit, avec des entreprises, des fois, avec des grands noms, mais dont on ne sait pas trop qui il y a derrière, là, on engage l'honneur de sa famille. Et donc, pour moi, c'est un gage de qualité, puisque quand on engage son honneur, on fait le maximum pour avoir la qualité optimale au niveau de ses produits.
Merci, Alexandre. Alors, Alexandre, on va se retrouver après une petite pause musicale. On aura plaisir de parler foie gras. Mmh. Et je sais que vous allez nous donner des conseils pour consommer ce foie gras et choisir. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve dans Bouche à Oreille avec notre invité du jour, Alexandre Léon, l'animateur de la filière du foie gras du Périgord. Alors, Alexandre, quand un consommateur voit Périgord sur une étiquette, qu'est-ce que cela doit lui garantir ? Est-ce qu'il doit regarder quelque chose en particulier ?
Donc déjà, s'il y a marqué Périgord, ça veut dire que toutes les étapes depuis la naissance de l'animal, du canard ou de l'oie, jusqu'à la transformation finale, se sont déroulés dans le Périgord. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, c'est une indication géographique protégée, une IGP. Et donc, elle vous garantit un certain nombre de critères tout au long du cycle de l'animal, puis de sa transformation. Donc déjà, quand c'est marqué Périgord, c'est que c'est garanti. Toutes les étapes sont garanties dans le lieu Périgord. Ensuite, ça veut dire que si ça n'est pas le cas, c'est une contrefaçon. Et donc, c'est notre rôle aussi, en tant qu'association, donc de défendre ce terme et donc d'essayer de temps en temps de trouver des contrefaçons et puis de les dénoncer.
D'accord. Alors, moi, j'ai une question très personnelle à vous poser, oui. Alexandre. Vous êtes la personne la plus connue ici dans le Périgord pour être le spécialiste du foie gras. Ah si, vous êtes modeste, Alexandre. Moi, j'aimerais savoir... À titre personnel, quel est votre premier souvenir avec le foie gras ? C'est quoi ce souvenir que vous pourriez nous raconter à nos auditrices et à nos auditeurs ?
J'étais jeune adulte, donc vous voyez, le foie gras est arrivé assez tard finalement dans ma vie. C'est une dégustation avec une petite bouteille de Montbazillac, avec mon amoureuse de l'époque.
Magnifique.
Et voilà, donc c'était un moment de convivialité, d'échange en couple, voilà, qui était très très sympa avec un foie gras en conserve, tout simple, sel, poivre, voilà, une recette toute simple, mais voilà, c'est un grand souvenir qui m'est revenu là comme ça, tout d'un coup.
Merci d'avoir partagé ça avec nous, Alexandre. Alors, il y a une autre question qu'on se pose souvent, les auditrices et auditeurs, je suis persuadé qu'ils se la posent, on parle de foie gras de canard. On parle de foie gras d'oie, mais on aimerait bien comprendre la différence. Donc, qu'est-ce qui change en fait entre foie gras de canard, foie gras d'oie ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît ?
Ouais. Donc, c'est vraiment une très très bonne question et j'aime beaucoup en animation faire des dégustations croisées, oie et canard, parce qu'en fait, c'est vraiment en temps réel qu'on s'aperçoit des différences. Quand on les déguste à distance, des fois, c'est un peu plus difficile d'apprécier les vraies différences. Alors, il y a des différences. Moi, ce que j'aime bien, c'est de ne pas les opposer. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça, c'est à chacun de se déterminer.
C'est une question de goût, en fait.
Moi, je ne discute pas les goûts. Par contre, il y a des vraies différences et c'est ça qu'on défend. Donc, par exemple, sur le foie gras. Clairement, le foie gras de canard est très typé sur un goût plutôt sauvage, ça veut dire plus proche du canard, en fait, dans la nature, en
ouais.
fait. Et donc, un goût très fort, très puissant. Et donc, notre palais, clairement, aujourd'hui, il s'est habitué à ce goût très puissant qui attaque d'entrée, et voilà. Alors que le foie gras d'oie, il faut un petit peu expliquer lors d'une première dégustation, quand quelqu'un le découvre, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus long en bouche, et donc il faut prendre un petit peu le temps, comme peut-être sur un vin qui serait lui-même très subtil, il faut prendre un petit peu le temps sur plusieurs bouchées de l'apprécier.
Voilà. D'accord.
Et plus onctueux, plus... voilà. Donc, il y a vraiment des différences à la fois de texture, de saveur, ne serait-ce que sur le foie gras. Les pièces de viande également, il y a des différences. Par exemple, entre les pièces d'oie et les pièces de canard, que ce soit un magret, des cuisses, etc., il faut être beaucoup plus pointu en termes de cuisson sur l'oie, par exemple, parce que c'est un produit... Alors, vous voyez, il est plus subtil, par exemple, sur le foie, mais il est aussi plus fragile sur les pièces de viande. Donc, il faut prendre plus... Il faut être beaucoup plus vigilant sur la cuisson, parce qu'on va, beaucoup plus vite basculer sur quelque chose de trop cuit, par exemple, que le canard qui accepte un petit peu plus de latitude voilà, sur les cuissons.
Alors Alexandre, on parle beaucoup de foie gras, mais l'IGP canard, ce n'est pas seulement le foie gras. Ça nous parle tout ça, le magret, les confits, les gésiers, les aiguillettes. Ça nous donne faim tout ça en fait. Hein.
Oui.
Est-ce que ce sont des produits qui sont aussi importants dans l'équilibre de la filière?
Oui, ben bien sûr. En fait, alors ce qui est important de rappeler, c'est qu'effectivement, aussi bien sur le canard que sur l'oie, tout se valorise. Et tout peut rentrer en ligne de compte dans une recette, dans la fabrication d'un produit. Donc c'est génial. Et puis il faut rappeler que l'histoire du foie gras dans le Périgord et dans le Sud-Ouest, c'est le gras avant tout, pour pouvoir conserver la viande l'hiver, avant qu'on ait des réfrigérateurs, etc. Donc effectivement... Tous ces produits, en fait, bon, les magrets, je pense que c'était le plat préféré des Français il y a quelques années, donc ça reste un produit emblématique.
C'est vrai.
Les cuisses confites, qu'on appelle le confit ou les confits, je pense que ça parle aussi un grand nombre de personnes. Donc oui, tous ces produits, en fait, du canard et de l'oie sont tous délicieux et peuvent se décliner dans des milliers de recettes, des millions de recettes. Enfin voilà, c'est une source d'inspiration infinie.
Alors moi, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a aujourd'hui, vu votre analyse de la filière et du marché aussi, bien évidemment, est-ce qu'il y a aujourd'hui un retour des consommateurs vers ces produits, on va dire, plus simples, plus familiaux, ce qu'on appelle, disons, plus cuisine du dimanche? Est-ce que on sent qu'il y a ce retour? Est-ce que vous confirmez ça?
Ouais. Alors, je vais vous donner une anecdote, mais je trouve qu'il parle assez fort. C'est qu'on a vu, par exemple, pendant la période du Covid, qui n'est pas si ancienne que ça, hein, on en a encore bien en mémoire, que, par exemple, il y avait une ruée vers les confits. Avec du stockage dans les foyers français de cuisses confites, en fait. Donc, pour une grande part, c'est de la conserve. Donc, effectivement, ça permet de faire du stock chez soi. Et comme vous le disiez, d'avoir, par exemple, pour la fameuse cuisine du dimanche ou autre, des produits très simples d'utilisation et qui peuvent être cuisinés très vite et dont l'expérience sensorielle est quasiment garantie. Ça veut dire qu'on va se régaler quoi qu'il arrive. Je veux dire, donc ça, c'est une vraie force, puisqu'en fait, on ouvre la boîte, on enlève le gras et ensuite on fait cuire simplement à la poêle, à la plancha, suivant ce que l'on a. Mais et on a tout de suite un plat, il suffit de trouver un accompagnement avec et on a tout de suite une expérience extraordinaire.
Alexandre, si vous deviez conseiller à quelqu'un pour redécouvrir le canard autrement que par le foie gras, par quoi on pourrait commencer? Quel est votre conseil?
Bon, on peut commencer par un petit produit sympa et simple à mettre en œuvre dans une salade composée les gésiers confits. Donc on ouvre la boîte, on enlève le gros du gras, on coupe en petites lamelles et on agrémente très facilement une salade qui va prendre toute sa beauté.
Alors merci Alexandre, on vous écouterait des heures et des heures, mais on va faire une petite pause musicale et je pense qu'on va se retrouver après et vous allez nous donner des super conseils.
Avec plaisir.
À tout à l'heure.
Soyons zen, du sang froid dans les veines. petit bout d'atoll. Sont prêts à larguer les amours, tous ces maîtres chanteurs. Pas qui manque de coffre et de cœur. C'est facile de compter les erreurs. La scène. Mais l'erreur est humaine, soyons zen. Du sang-froid dans les veines, soyons zen. Plus de choc à la chaîne, zen, restons zen. Du calme à la vie comme à la scène. Sans amour, sans
se retrouve dans l'émission Bouche-oreille, toujours avec notre invité de marque, Alexandre Léon, l'animateur de la filière du foie gras du Périgord. Alors, Alexandre, un petit conseil, bien choisir son foie gras. Quand on est devant un rayon, sur un marché ou chez un producteur, comment reconnaît-on un bon foie gras? Est-ce que ça, vous pouvez nous donner les subtilités?
Alors, première étape, visuellement, on repère le terme Périgord.
Ah, mais ça, on l'a dit, ça, on le sait.
Alors, deuxièmement, la couleur. Alors, c'est vrai que c'est un des premiers aspects visuels que l'on peut regarder, s'il y a une couleur homogène. Donc, comme on nourrit les canards et les oies avec du maïs, on a une teinte plutôt jaune, marquée dans le sud-ouest et dans le Périgord. Donc, voilà. Déjà, observer qu'il y a une couleur homogène, qu'il n'y a pas de blessure sur le foie. Donc, ça, c'est un premier critère. Ensuite, si on le peut, parce que des fois le produit est protégé soit sous vide, soit sous du film plastique, etc. Si on peut le toucher, c'est d'aller chercher sa plasticité en fait. Ça veut dire sa souplesse. S'il est très dur, attention, il va probablement fondre à la cuisson. S'il est vraiment très très mou, pareil. Donc les deux extrêmes ne sont pas bons. Par contre, s'il est souple, ça veut dire qu'on appuie, ça met une empreinte et que l'empreinte se reforme en fait. Ça, c'est plutôt un signe d'élasticité.
D'accord.
C'est un très bon signe. Ensuite, ce qu'on peut faire, alors si le producteur est là, on peut le lui demander. Sinon, on le voit sur l'étiquette. C'est que en fait, la date à laquelle vous achetez votre produit quand vous y êtes là, en temps réel et la date d'abattage qui est souvent indiquée, il faut qu'elle soit la plus proche en fait. Ça veut dire que le meilleur foie gras du monde. Plus le temps s'écoule à partir du moment où l'animal a été découpé, plus en fait le produit perd un petit peu de sa qualité. C'est mécanique en fait. Voilà, donc plus on est proche, c'est pour ça que c'est une vraie force que dans notre bassin, on ait tous les métiers. Ça veut dire qu'on élève et les animaux sont disponibles pour les conserveurs, ceux qui les transforment dans la journée. Donc vous voyez, c'est cette fraîcheur qui est vraiment aussi une garantie d'origine et cette proximité géographique.
Alors, je vais vous faire une confidence, Alexandre. Je n'ai jamais su la différence qu'il y avait alors, entre foie gras entier, foie gras et bloc de foie gras. Alors, ça, c'est, je pense que nos auditrices et auditeurs aimeraient connaître cette différence, parce que c'est vrai qu'on se mélange. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette différence-là?
En fait, il y a peu de catégories, mais des fois, on se mélange les pinceaux. La Rolls, on va partir du haut de gamme, c'est le foie gras entier.
D'accord.
Voilà, ça veut dire que ce foie gras, c'est la législation qui l'impose, il ne peut provenir que d'un seul foie gras, celui que vous avez dans votre verrine. Donc le foie gras entier, déjà, c'est le haut de gamme. Ensuite, on peut la voir, ce foie gras entier, en conserve. Donc, effectivement, il se conserve à température ambiante ou mi-cuit. Donc là, il faut respecter la chaîne du froid. Hein, donc voilà, c'est la seule différence. Donc c'est une histoire de cuisson, en fait. Hein. Ensuite, donc, ça, c'est le foie gras entier, c'est l'eau de gamme. Ensuite, on a ce que vous appelez le bloc, effectivement, oui. Le bloc de foie gras. Donc le bloc, c'est bien du foie gras, c'est 100% foie gras. Par contre, on peut aller chercher plusieurs morceaux de foie gras et les assembler. C'est la différence. Donc on considère que ça n'est plus le haut de gamme, puisque le haut de gamme, ça provient d'un seul foie gras. Voilà. Et ensuite, le bloc, la plupart du temps, il est un petit peu émulsionné. Ça veut dire qu'on l'harmonise, puisqu'il y a plusieurs morceaux de foie gras qui sont assemblés. Donc, pour les harmoniser, pour pas que ça casse au moment du service, on les brasse ensemble, en fait, on les mêle, voilà, pour que ça fasse une texture qui soit voilà, la plus harmonieuse possible.
Alors là, je pense que vous nous avez mis l'eau à la bouche, oui. Hein. Alors bouche à oreille, l'eau à la bouche, oui. Vous voyez, donc oui. c'est parfait. Maintenant, on va passer à table. Oui. On va se dire qu'une recette facile pour quelqu'un qui n'a pas envie de se lancer dans une grande préparation, vous avez parlé tout à l'heure des gésiers, oui. Mais est-ce que vous auriez une autre recette que vous avez envie de partager avec nous?
Enfin, moi, je pense que celle qui est la plus puissante et qui est très rapide, c'est d'acheter, alors le plus simple c'est quand c'est déjà fait, sinon on peut le faire soi-même, c'est d'acheter des escalopes de foie gras congelés. Parce qu'en plus la particularité quand l'escalope, donc c'est une petite section de foie gras que l'on va mettre sur la poêle chaude, en fait quand elle est congelée, ben, ça va très peu fondre, donc ça va peu rendre de gras. Et donc en plus c'est très rapide, ça veut dire qu'en quelques minutes, d'un côté, 2 ou 3 minutes d'un côté, 2 ou 3 minutes de l'autre, et puis ensuite... on touche un petit peu pour voir la texture que l'on souhaite, plus ou moins souple, ou plus ou moins dure. Voilà, donc c'est une recette. Voilà, les escalopes de foie gras à la poêle, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et moi, je trouve ça, enfin, pour moi, c'est une de mes recettes préférées, plus simple, voilà.
Et alors moi, j'ai envie de vous en proposer une, j'espère que l'expert va la valider. Mmh. Alors si je vous dis, et je dis à nos auditeurs, auditrices, imaginez un foie gras mi-cuit, avec un pain de campagne légèrement toasté. Mmh. On rajoute un peu de fleur de sel, mmh. du poivre blanc aussi, on peut. Mmh. Hein. Et alors après, on va parler quand même à corps mévin. Et là, je vois dessus un bergerac blanc sec et non liquoreux. On va voir pourquoi. Mmh. Et aromatique. Est-ce que vous validez cette recette,
je
Alexandre?
Je valide à 100%.
Bon, voilà, superbe. Bon, je suis un piètre cuisinier, vous savez, Alexandre. Et rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et avec modération, surtout la modération. Alors, c'est vrai que si on part sur les vins, nous sommes dans un département de gastronomie et de vin, de vignoble. On pense immédiatement aux vins liquoreux, notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans votre expérience, au Montbazillac. Alors moi, je dirais, est-ce que c'est l'accord évident ou il faut parfois sortir des habitudes pour consommer ce foie gras?
Alors franchement, là, pareil, on se met à l'aise. Tous les goûts sont dans la nature. Donc moi, je ne juge pas les goûts des uns et des autres. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant d'expliquer au public, c'est que l'on peut avoir effectivement une palette assez large d'accords mets et vins. Donc c'est plutôt intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut avoir des expériences gustatives très variées. Avec le foie gras ou avec les autres produits du canard et de l'oie, du Périgord. Donc, effectivement, les liquoreux, on va dire que ça fonctionne plutôt très bien. C'est un peu l'accord historique, on va dire.
C'est ça.
Voilà, et qui fonctionne encore très bien. Et puis, je veux dire, certains adorent. Donc, il faut que ça continue. Il faut se faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que, on va dire, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, les goûts ont évolué. On va peut-être sur une tendance beaucoup plus petit à petit vers des vins blancs plus secs, voilà, oui. Fruités, etc. Donc, éventuellement, même avec peut-être certains rouges également.
Très fruités.
Très fruités aussi, légers. Voilà.
Avec vraiment très peu de tanins, ça peut marcher parfaitement.
Parfaitement,
hein.
Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est plus récent. Et que dans les habitudes culinaires, c'est plutôt une nouveauté et une évolution des goûts.
Alexandre, l'émission va arriver on aimerait continuer avec vous. Moi, j'aimerais que, si vous deviez résumer le foie gras du Périgord en 3 mots, lesquels choisiriez-vous? Allez, 3 mots, comme ça.
Le plaisir, ça reste le premier, je pense. Le partage, parce que ce plaisir-là, on a envie de le partager et de donner du bonheur à tout le monde. Et ensuite, vraiment, parce que des fois, il est galvaudé et des fois, il est mal vu, mais la tradition et cette transmission, en fait, de savoir-faire de génération en génération, pour moi, elle est primordiale. Et elle est réussie dans cette filière. Et voilà, donc ça...
Bon, c'est plus de trois mots, mais on vous l'accorde. Merci, Alexandre, d'avoir
merci
été
Bertrand.
Avec nous dans cette première émission sur RVB, Bouche à oreille. Alors, merci d'avoir passé ce moment avec nous dans Bouche à oreille. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre gourmande. Et souvenez-vous, les bonnes histoires, comme les bons produits, se partagent toujours de bouche à oreille. Ciao.